En ce 21 septembre 2022, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer. Au micro du podcast, Docteur Sauvé qui nous explique la maladie.
Je m'appelle Sauvé, je suis neurologue au CHU de Grenoble et je suis responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Grenoble qui s'occupe des pathologies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui touche les aires associatives du cerveau et notamment le plus souvent d'abord la mémoire, dans 65% des cas, mais qui peut aussi avoir des débuts dans d'autres sphères cognitives du cerveau et qui est liée à ce qu'on appelle une protéinopathie, c'est-à-dire la formation de protéines pathologiques qui ne sont pas habituellement retrouvées dans un cerveau sain par deux mécanismes. D'abord la voie amyloïde, donc une amyloïdopathie. Il y a la formation de l'A-bêta-1-42 au lieu de la formation de l'alpha-APP qui est bon pour le cerveau en quantité anormale, qui va s'agglomérer en plaques. Et d'autre part, il y a aussi une tauopathie. La protéine tau et la protéine phosphotau étant très importantes dans le fonctionnement du microsquelette qui est dans l'axone du neurone et qui est un système de petits trains qui transporte les neurotransmetteurs du noyau jusqu'à la synapse. Et donc cette protéine, notamment la protéine tau, quand elle est trop phosphorylée et phosphorylée sur des sites qui ne sont pas prévus, ça déséquilibre l'équilibre entre tau et phosphotau. Et ça va entraîner un dysfonctionnement du neurone et ensuite la mort de ce neurone. Et l'accumulation de ces deux mécanismes sur le plan anatomopathologique reflète la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. On n'a à ce jour pas de traitement curatif en Europe. On n'agit pas justement sur ces deux voies, l'amyloïdopathie et la tauopathie, avec nos traitements. On a des traitements uniquement symptomatiques sur le plan médicamenteux qui vont préserver soit les neurotransmetteurs, la acétylcholine dans la synapse, soit qui vont préserver certains fonctionnements de récepteurs au niveau des parois des neurones, mais qui n'agissent jamais sur la protéinopathie elle-même. Il y a des traitements qui sont à laisser, à la fois sur la voie amyloïde et à la fois sur la tauopathie. Mais il n'y a pas d'AMN obtenu en Europe. Il y a quand même un médicament qui est obtenu l'AMM aux États-Unis, c'est l'aducanumab, qui est donc efficace sur la voie amyloïde. Mais la démonstration de l'efficacité est discutable et les effets secondaires ne sont pas négligeables parce que ça entraîne ce qu'on appelle des arias au niveau du cerveau dans un tiers des cas minimum, et qui soit un œdème, soit une hémorragie, et à un stade très précoce de la maladie où les patients peuvent encore profiter et avoir une qualité de vie satisfaisante. Pour l'instant, l'Europe n'a pas approuvé. Alors, nous, on n'utilise pas du tout de stimulation transcrânienne, une chose comme ça, sur le bonhomme, on n'a pas fait. Il y a des protocoles qui existent sur essayer la stimulation intracrânienne aussi, qui ont été essayés, mais sur le bonhomme, on ne le fait pas. Par contre, on fait toute la thérapie non médicamenteuse, qui en effet consiste à jouer encore de ce qui peut rester de plasticité cérébrale et à préserver surtout les capacités qui restent, en les mobilisant pour retarder la maladie. Et en effet, on peut prescrire par exemple la neuropsychologue. Après, le problème de l'intervention du neuropsychologue, c'est qu'elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, donc ce sera sur financement propre des patients. Quand il y a des troubles de langage, aussi des troubles de mémoire verbale, d'implication des fonctions exécutives sur le langage, on peut demander l'intervention d'une orthophoniste. Et sinon, il existe à domicile des équipes spécialisées Alzheimer au stade léger, modéré de la maladie, vont pouvoir proposer des prises en charge à domicile adaptées aux intérêts du patient et à ses capacités pendant 3 mois, raison d'une heure par semaine. Voilà. Et puis il y a aussi tout l'accompagnement de l'aidant, donc qui est le proche, c'est souvent le conjoint, ça peut être les enfants, qui est aussi très important dans cette maladie, parce que cette maladie a un impact sur tout le monde et sur la santé de tous. Si on a une psychologue qui suit beaucoup d'aidants, on a une infirmière qui est présente, et puis il y a aussi, on fait le lien avec le réseau de ville, la maison des aidants, l'association France Alzheimer qui propose des formations pour les aidants. Et on a des interventions multidomaines, sport, vie sociale, vie intellectuelle, qui sont vraiment importantes pour aller mieux aussi, équilibrer l'alimentation, c'est important. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde un peu plus profondément, que c'est important tout au long de la vie, de faire l'activité physique, d'avoir la chance d'avoir des liens sociaux de qualité et de pouvoir aussi progresser sur le plan intellectuel. Par exemple, les études, faire des études, on a démontré que ça permettait d'avoir une meilleure réserve cognitive et donc de résister plus longtemps à la maladie d'Alzheimer et l'exprimer plus tardivement. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est difficile à vivre pour les patients. Ils sont souvent anosognosiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément vraiment conscience de leurs difficultés. Parfois, il y en a certains qui ont une conscience aiguë des troubles et c'est douloureux à vivre. Et ceux qui sont anosognosiques, ils ont souvent des moments quand même où ils prennent conscience de leurs difficultés et où c'est également douloureux à vivre. Ils sont très sensibles, très poreux à toutes les émotions que peuvent ressentir l'entourage, qu'il soit professionnel ou qu'il soit familial, de quelque nature qu'il soit. Et donc, le comportement de l'entourage professionnel, familial, les aides à domicile, l'infirmier, vont impacter sur leur propre comportement. Et donc, c'est aussi important d'accompagner l'aidant, parce que l'aidant, c'est important qu'il arrive à trouver sa place, parce que si c'est un conjoint, la relation, le couple, elle va être modifiée, il y a un équilibre qui va être complètement transformé, et qui n'est pas forcément facile à trouver, surtout quand les gens sont mariés depuis plusieurs décennies, et puis qui est douloureuse à vivre. Et donc c'est important de les accompagner aussi pour faire ce chemin émotionnel. Alors l'objectif quand même, donc si on obtenait des traitements qui soient vraiment curatifs, ce serait de diagnostiquer tôt, parce que c'est pas très facile de réparer un cerveau. Et puis un cerveau, ça contient une identité. C'est voilà, on change pas un cerveau comme on change un cœur ou un poumon. Donc c'est très important d'agir tant que les capacités sont encore préservées. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé cette dernière décennie, c'est d'essayer de pouvoir prédire quand une personne va évoluer vraiment vers la maladie. Et ça, c'est encore très difficile pour nous de prédire. Finalement, il y en a moins que ce qu'on attendait qui évoluent vers la maladie sur les études qu'on a pu faire et qu'on a pu voir. Par contre, on a quand même développé des outils pour essayer de mettre en évidence certains biomarqueurs. Et par exemple, les biomarqueurs qui sont recherchés par la ponction lombaire depuis 10-15 ans maintenant, on va pouvoir